France Inter.
France Inter. Le téléphone sonne. Élodie Forêt.
Quand on aime, on poste. Ce réflexe, nous sommes bon nombre de parents à l'avoir. Publier sur les réseaux sociaux des photos de nos enfants à la plage, sur un vélo ou cartable sur le dos pour la toute première rentrée. Des photos innocentes partagées pour un tas de raisons. La fierté, le bonheur, l'envie de montrer à quel point nous les aimons. Le phénomène porte un nom, le sharenting, contraction en anglais de partager et de parentalité. Sur les réseaux, des comptes en ont d'ailleurs fait une spécialité, on les appelle les influenceurs famille. Sur Instagram notamment, ils et elles documentent leur quotidien et sont rémunérés par des marques. Tout ça pourrait sembler anodin, léger, voire même amusant, sauf que les chiffres sont accablants. Une image sur deux retrouvée sur des sites pédocriminels a été postée volontairement sur les réseaux par les familles. Une réalité glaçante. Alors ce soir, on va interroger et questionner le sharenting. Pourquoi on poste ces photos? Quel est le mécanisme psychologique? Vous nous direz si vous le faites régulièrement ou si vous avez pris conscience des dangers et pourquoi. Si le débat s'est ouvert chez vous, c'est parfois, on le verra, une source de conflit. On essaiera également, avec nos experts, d'y voir clair quels sont les risques et s'il est possible de poster des photos en sécurité. S'il y a des astuces, mettre un emoji sur la tête de bébé, bonne ou mauvaise idée. Et puis, on parlera de ce que dit la loi aujourd'hui, des chantiers qu'il faudrait ouvrir pour protéger davantage les enfants. J'attends vos questions, vos témoignages au 01 45 24 7000, téléphone ou message WhatsApp. Venez nombreux, on est ensemble jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et en ligne avec nous ce soir pour commencer cette émission, Céline. Bonsoir Céline.
Oui, bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Avec plaisir. Oui, voilà. Donc, j'ai souhaité témoigner parce que c'est un sujet qui nous a toujours questionné, donc mon mari et moi, sur cette manière d'exposer notre enfant dans les réseaux sociaux. Et effectivement, nous, on ne l'a jamais pratiqué parce que c'est vrai que on a toujours accompagné notre enfant dans différencier sa vie intime, sa vie privée, sa vie publique, et que pour nous, dès bébé, l'enfant a le droit, parce que c'est un droit à avoir une vie, à une vie privée, une vie intime, et que ça participe à sa construction psychique tout du long, de bébé jusqu'à jeune adulte. Et là, actuellement, maintenant, notre enfant est adolescent. Et du coup, on l'accompagne aussi dans le fait de l'usage des réseaux sociaux, en lui expliquant bien. Et du coup, comme on l'a aussi appliqué à lui, à ne l'avoir jamais exposé dans quelque situation que ce soit, à ce qu'il se construise, à ce qu'il soit aussi vigilant et responsable dans ce qu'il peut poster lui maintenant à l'heure actuelle. Enfin voilà, du coup, moi ça a toujours été un fil conducteur dans notre vie et dans l'accompagnement de notre enfant, que du coup, quand on le prend en photo, ça reste dans notre album photo à nous, quand on a envie de le partager, etc. Et surtout, ce qui me questionnait aussi, c'est que moi, j'ai connu l'époque de l'argentique, et avant de prendre en photo, on demandait le consentement, l'autorisation. Enfin voilà, il y a aussi la question qui se pose du consentement. Et aussi le fait de me dire, moi, si j'avais découvert que mes parents m'avaient exposé de bébé jusqu'à l'adolescence sur les réseaux sociaux, moi, j'aurais pu le prendre, je pense, d'une façon assez violente, parce que du coup, qu'est-ce que c'est que ma vie intime qui est exposée en même temps, à tous et à tous. Et du coup, dans ma construction, c'est un peu du coup comme dans le film. Le film là qui était qui était filmé là tout au long de sa vie, et moi je trouve que c'est d'une violence et dans sa construction en tant que personne, dans sa relation à soi-même, mais aussi dans la relation aux autres. Qu'est-ce qu'on construit aussi, quoi. Enfin voilà, du coup, nous, ça a toujours été un fil conducteur, quoi.
Une petite question, Céline. Du coup, à votre connaissance, votre fils ne poste pas de photos de lui sur ses propres comptes aujourd'hui?
Alors, en tout cas, il fait attention la façon de ce qu'il va poster, ça le questionne, et la façon dont il va le faire, et comment il le fait, et surtout quel type de photos. Enfin voilà, du coup, nous, lors des repas, quand on échange, etc., sur les réseaux sociaux, sur cette fameuse exposition, et sur le fait que les images, une fois qu'elles sont postées, on n'en a plus du tout la maîtrise. Donc, du coup, on l'a accompagné dans cette vigilance à avoir. Il n'y a pas d'interdit, mais en tout cas, il faut toujours qu'il ait le sens critique. Et voilà. Et le sens critique de ce qu'il poste, et de savoir qu'après, il n'en est plus maître, quoi. Et qu'il ait une vigilance, quoi, par rapport à ça.
Merci beaucoup, Céline, parce que vous avez du coup abordé dans votre témoignage beaucoup des sujets qu'on va pouvoir aborder ce soir avec nos invités. Églantine Camille, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargée de sensibilisation et de plaidoyer pour l'association Caméléon. C'est une association qui lutte depuis 28 ans contre les violences sexuelles faites aux enfants et la cyberpédocriminalité. Merci beaucoup d'être avec nous en ligne ce soir aussi. Bruno Studer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien député La République en marche du Bas-Rhin. Vous êtes l'auteur des 3 lois Studer sur la protection de l'enfance en ligne, dont la dernière adoptée en 2024 concerne justement le droit à l'image des enfants. On va reprendre un peu point par point ce que nous a dit Céline, mais peut-être d'abord Églantine Camille, pour qu'on se rende compte, aujourd'hui, est-ce qu'on a un pourcentage de parents qui postent des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux ?
Tout à fait. Aujourd'hui, donc, grâce à une association qui s'appelle l'Open, on sait qu'il y a 53% des parents français qui postent régulièrement des photos de leurs enfants en ligne. 43% commencent dès la naissance de l'enfant. Alors si ça touche tous les parents, effectivement, il y a quand même une tendance en hausse chez les jeunes parents, puisqu'on voit bien, maintenant, les réseaux sociaux font tant partie de notre quotidien que tout le monde partage beaucoup de choses dessus.
Bruno Studer, vous qui avez travaillé sur le sujet, on disait 43% qui postent dès la naissance de leur enfant. Il y a même des parents qui postent même avant même la naissance.
Oui, on estime qu'entre un quart et un tiers des enfants existent déjà sur Internet avant d'exister dans la vraie vie, très souvent via le partage d'une image d'échographie, parce que tout simplement les gens sont très heureux d'attendre un enfant, ils veulent le partager, mais en fait ils ne se rendent pas tout à fait compte de ce qu'ils sont en train de partager justement, c'est-à-dire des données qui vont peut-être poursuivre l'enfant durant toute sa vie, y compris on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais qui vont alimenter ensuite des intelligences artificielles qui peuvent faire du scoring sur les données de santé et une image d'échographie. En fait, ça devrait tout simplement déjà respecter le secret médical d'un enfant.
Ce phénomène de sharenting, puisque c'est le mot qu'on lui donne, donc contraction hein, de share, partager, de parenting, parentalité, ça existe depuis quand à peu près, Églantine Camille ?
Le fait de partager des images de ses enfants, ça a toujours existé, en fait. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a une démultiplication de cette pratique avec la venue des réseaux sociaux et le fait que ce soit absolument courant. Si le fait de poster ses enfants augmente, en fait, d'un autre côté, les risques augmentent tout en même temps. Et c'est pour ça qu'on trouve important le fait de sensibiliser les parents à ce sujet.
Nous sommes en ligne avec Servane. Bonsoir, Servane.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oui, moi j'appelais, alors ça va peut-être faire un petit peu redite avec le premier témoignage, mais pour dire que je trouve totalement irresponsable aujourd'hui en 2025 de continuer de partager des photos ou des vidéos de ses enfants sur les réseaux. Il y a quelques années, on pouvait peut-être encore, pas trop savoir, allez, mettons. Mais aujourd'hui, on sait très bien que ces photos, j'ai entendu les chiffres tout à l'heure, elles sont, il y en a plein qui sont détournées sur les réseaux, pédocriminels. Il y a aussi un côté hyper humiliant, je trouve. Enfin, vraiment, aujourd'hui, en deux secondes sur TikTok ou quoi, on tombe sur des photos de tout jeune enfant qui peuvent être dans des situations, où ils font une bêtise, où ils sont tout sales, ou je sais pas quoi. Et ok, sur le moment, ça fait rire, mais en fait, quand on y réfléchit deux secondes, c'est vraiment horrible. Et ça veut dire que l'enfant qui est mis en scène, potentiellement des milliers de gens ont vu sa vidéo et se moquent de lui. Et je suis pas psychologue, mais je pense pas que ce soit très pertinent pour la construction d'un enfant que des milliers de gens aient eu accès à des photos de lui tout petit. Même parfois, on voit des enfants qui sont tout nus. C'est vraiment ça a pas de sens. Et j'entends bien le côté oui, je suis fière de mes enfants. Regardez comme ils sont beaux, nanana. Mais moi aussi, j'ai des enfants. Moi aussi, je suis très fière d'eux. Mais jamais, je ferais un truc pareil.
Jamais vous avez été tenté de vous dire allez, je poste une photo sur Instagram ou sur un autre réseau. Jamais.
Ah, vraiment jamais. Enfin, je vois bien que j'ai des connaissances, plein de gens qui le font. Cela dit.
Ah, on vous a perdu, Servane. On va peut-être pouvoir vous retrouver. Juste, Bruno Studer, je l'ai dit dans mon introduction, vous avez fait plusieurs lois, êtes à l'origine de plusieurs lois sur le sujet. À quel moment, vous êtes dit qu'il fallait vraiment s'emparer de ce sujet-là ?
Alors, c'est vrai que j'ai commencé mes travaux sur les enfants influenceurs, qui étaient dans une relation de travail, en fait, avec des parents qui leur faisaient jouer un rôle, très souvent pour faire de la publicité pour des produits, etc. Et il y a quelques enfants influenceurs qui, en France, ont des auditeurs qui se chiffrent en millions. Hein. Donc, en travaillant sur le sujet, j'ai découvert des phénomènes que moi-même, je ne connaissais pas, comme... Le vlogging familial, c'est-à-dire des familles qui s'exposent en permanence, en fait, et qui exposent leurs enfants en permanence. J'ai aussi découvert les pranks, c'est-à-dire ce qu'on appelle les canulars, en fait, hein, où on fait une mauvaise blague à un enfant. Et puis derrière, il y a effectivement la prise de conscience que les enfants, de tout temps, ils attirent de la sympathie. Et aujourd'hui, la sympathie, elle se traduit en viralité. Cette viralité, elle se traduit parfois simplement en quelque chose de très égocentrique, mais parfois quelque chose se traduit aussi en monnaie sonnante et trébuchante. Et tout cela, à la fin, faisait quand même peser une menace sur la dignité de l'enfant, qui repose aussi, à mon avis, sur le droit à l'oubli, qui passe par le droit à l'effacement sur Internet, et qui est aujourd'hui extrêmement, extrêmement compliqué. Encore une fois, Internet n'oublie rien, et il faut aussi anticiper. Et lorsque j'étais député, je me suis toujours attaché à essayer d'anticiper les problèmes qui pouvaient arriver. Et ces problèmes, c'est que les données des enfants sont en fait très très précieuses pour les entreprises, sont très très précieuses pour des organisations comme les réseaux sociaux qui en tirent profit.
Parce que peut-être, reprenons, soyons un petit peu pédagogiques, Églantine Camille, une photo qui est postée comme ça, ça veut dire quoi ? C'est qu'elle reste en ligne indéfiniment ?
Dès qu'on poste une photo en ligne, on en perd le contrôle. Alors évidemment, il y a des mécanismes qui permettent de supprimer les photos, les déréférencer. Donc des formulaires existent pour ça. On a même des super applications et associations qui permettent de le faire pour les enfants aujourd'hui en France. Malheureusement, il suffit qu'une personne ait enregistré, pris une capture d'écran cette photo, et en fait, elle reste à tout jamais dans le téléphone de quelqu'un. Encore pire, quand ces photos vont être récupérées pour être diffusées dans ce qu'on appelle le darknet, donc par exemple sur des forums pédocriminels, où des prédateurs vont pouvoir s'échanger les photos, les commenter, ou même trouver, comme Bruno Studer le disait, des données associées à l'enfant directement à partir d'une image.
Ce qui veut dire que même une photo qu'on poste sur ce qu'on appelle des stories sur Instagram, par exemple, c'est-à-dire des photos éphémères qui ne restent pas, elles peuvent être capturées et partir.
Tout à fait. Il suffit d'une capture d'écran et tout le monde sait aujourd'hui le faire.
Il est difficile des fois de prendre conscience de ce que peut devenir une photo. Il y a un chiffre qui est donné, et je le redonne, je l'ai donné dans mon intro, mais qui a été donné par Clara Chapaz, qui est ministre chargée du numérique. Une image sur deux utilisée sur les sites pédocriminels aujourd'hui viennent de photos d'enfants publiées volontairement. Comment on arrive à faire prendre conscience de ça aux parents ?
Alors, on arrive à leur faire prendre conscience de ça, malheureusement, en jouant sur ce risque. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'une fois que cette photo est récupérée par un prédateur, elle est envoyée sur des sites, des forums, et même la photo la plus anodine peut se retrouver à être l'objet de fantasmes de pédocriminels.
Même banal, même habillé.
Totalement banal. Évidemment, il y a des photos qui peuvent paraître plus suggestives à l'œil d'un prédateur. Je pense aux photos à la plage, en maillot de bain, nues. On a même des trends sur les réseaux sociaux où il s'agit de faire danser des bébés, par exemple. Mais en fait, même une photo, on va dire une photo de classe, une photo à la sortie d'un club de sport, une photo d'un enfant en train de jouer dans sa chambre, ça aussi, ça peut être récupéré.
Nous sommes en ligne avec Marie, vous nous appelez d'Ardèche. Bonsoir.
Bonsoir. Écoutez, c'est assez intéressant. Alors moi, j'avais pas en tête l'impact de l'image sur les réseaux pédocriminels. Et je suis assez surprise. Mais par contre, voilà, c'est quelque chose c'est un sujet sur lequel on a sensibilisé nos enfants et notamment notre fils qui a 15 ans. Et c'est ce que je disais. On a l'un avec, enfin mon mari comme moi, pas de compte Facebook, pas de compte Instagram. On est passé à travers les mailles du filet depuis 20 ans que ça existe. Et on s'en sort. On s'en sort pas trop mal. Bon, après, je vis avec un ingénieur en informatique, donc ça aide pour trouver des contournements. Et on a réussi à faire que notre fils en seconde n'ait pas de compte aussi WhatsApp et s'en sorte. Et quand même sa chaîne YouTube pour faire ses vidéos, ses montages de jeux, etc. et partager sa passion, voilà. Mais il est très sensibilisé sur le fait de ne jamais mettre son visage et ne jamais mettre de photos, que ce soit de lui ou de ses amis, parce que en fait, au-delà de ça, au-delà des réseaux pédocriminels, c'était le respect de ta vie privée et en disant, bah attention aux conséquences d'une photo qui est mise là aujourd'hui. Et qui peut ressortir plus tard. Bon, bah, écoutez, on n'a pas tout réussi, mais ça passe, ça a marché. Voilà.
Merci beaucoup, Marie. Pour compléter une question de Régis sur notre messagerie WhatsApp que je vous adresse, Églantine Camille, parce que là, on parle des réseaux sociaux, on pense beaucoup à Instagram, à Facebook, à TikTok ou à Snapchat. Est-ce qu'il y a un risque, nous demande Régis, avec les photos qu'on envoie par WhatsApp, c'est-à-dire une messagerie privée, pour le coup?
Alors, pour parler exclusivement là du risque de récupération des images par des réseaux de pédocriminalité, évidemment, mettre un compte réseau social en privé ou envoyer des photos sur WhatsApp, c'est déjà un premier garde-fou qu'on peut poser. Par contre, ce qui se passe et ce dont il faut être conscient, c'est que, en fait, tout comme dans tout ce qu'on appelle les violences sexuelles hors ligne, et bien dans les violences sexuelles en ligne, les prédateurs peuvent aussi être des gens de l'entourage proche, et c'est d'ailleurs souvent le cas. Donc malheureusement, il suffit encore une fois qu'il y ait la mauvaise personne dans ce groupe WhatsApp pour que la photo soit enregistrée et récupérée.
Mais si c'est un groupe WhatsApp familial, on va dire, et on peut dédramatiser...
On peut évidemment dédramatiser. Il est juste important de connaître tous les risques.
Bruno Studer, est-ce que l'arrivée de l'IA générative a démultiplié le danger ?
Elle le démultiplie. Par exemple, parce que on peut faire des deepfakes avec des photos d'enfants, hein, et puis un enfant qui mange une glace pendant les vacances se retrouve, pardonnez-moi pour l'expression, mais en train de pratiquer une fellation sur un réseau pédopornographique. Je vous prends cet exemple-là. Un autre exemple que j'ai vu lorsque j'ai partagé mes travaux dans d'autres pays, c'est des parents qui se sont rendus compte que des poupées sexuelles étaient en vente avec l'image de leur enfant. Et puis derrière, alors ça c'est parler de pédocriminalité évidemment permet d'attirer et de capter l'attention des gens pour aussi derrière aborder d'autres sujets qui me semblent sont importants. J'abordais tout à l'heure la question de l'échographie qui est un document médical. On partage beaucoup trop d'informations médicales sur nos enfants, ne respectant pas là le secret médical auquel ils ont droit. Et puis derrière, je le vois aussi avec des développements d'intelligence artificielle qui vont de plus en plus aller loin dans la pénétration de l'individu en faisant du scoring. Et en fonction de ce scoring, vous adressez...
Alors c'est quoi du scoring, pardonnez-moi
C'est que vous allez être noté. Et vous allez être noté en fonction de toutes les informations qu'on trouve. Et quand on partage l'image d'un enfant ou d'une enfant, en fait, il faut aussi se rendre compte qu'on partage pas juste son visage. On partage tout son environnement, on partage sa couleur préférée, on partage très souvent, malheureusement, même son adresse, on partage les produits qu'il aime, on partage parfois les notes qu'il a eues, on partage les punitions qu'il a pu avoir ou les maladies. Et tout cela, ça forme en fait des données qui sont derrière. Comme toutes les intelligences artificielles, maintenant les gens commencent à comprendre que le cœur du sujet des IA, c'est la donnée. Tout ça, ce sont des données. Et derrière, évidemment, c'est le droit
ces données
à la vie privée. Le droit à la vie privée.
Elles servent à quoi ces données ? Elles servent à quoi toutes ces données qui sont collectées pour que vraiment ça soit clair dans la tête de tout le monde ?
Mais elles peuvent servir à faire des images pédopornographiques. Et si, malheureusement, aujourd'hui, déjà à la base, vous savez, une intelligence artificielle générative d'images est très très bonne sur les nus. Parce que tout simplement, elle a été nourrie avec les images de la pornographie. Eh bien, ça, c'est la même chose avec la pédopornographie. Et une intelligence artificielle, aujourd'hui, est capable de générer de la vidéo, de la fausse vidéo avec des enfants parce qu'elle a été entraînée sur des vraies données, par exemple. Et puis derrière, c'est des données qui vont être utilisées parfois pas de façon criminelle comme étant comme ce dont on vient de parler à propos de la pornographie, mais par des ciblages publicitaires, par des ciblages qui vont ensuite se développer tout au long de la vie de l'enfant. Parce que l'intelligence artificielle générative, c'est une des intelligences artificielles, mais il n'y a pas que ça. Et la puissance des intelligences artificielles aujourd'hui va aller demain de plus en plus loin. Donc faisons attention à la matière première. dont elles se nourrissent, qui sont les données.
Il y a d'autres risques aussi, Eglantine Camille, l'usurpation d'identité par exemple.
Tout à fait. En fait, à partir du moment où des données sont transmises, donc si quelqu'un les récupère, donc il y a toutes ces questions de vente de données que les réseaux sociaux exploitent, mais aussi d'usurpation d'identité. On le voit souvent, notamment chez des adolescents ou des adolescentes, avec des images qui vont par exemple être totalement récupérées pour créer des faux comptes qui vont orienter des personnes vers des canaux Telegram ou OnlyFans, jouant encore une fois, flirtant encore une fois avec la pédocriminalité. L'autre chose, c'est évidemment, nous on en parle souvent sur le terrain avec les enfants, en fait il faut bien se mettre en tête que ce qu'on ne dirait pas à un individu dans la rue, il ne faut pas non plus le dire, il ne faut pas non plus le donner en ligne. Donc il ne faut pas donner son adresse, il ne faut pas donner son numéro de téléphone, parce que c'est plein de données qui peuvent être utilisées pour usurper notre identité ou créer des violences par la suite.
Vous voyez aussi des cas de harcèlement scolaire, parce que c'est un thème dont on parle beaucoup, c'est-à-dire qu'une photo publiée des années avant ressort et va être l'objet de moqueries.
Tout à fait. En fait, il suffit qu'une photo, imaginons des parents qui vont mettre en scène un enfant. Il y a par exemple ça en ce moment sur les réseaux sociaux, lancer de la nourriture à un enfant. Cette vidéo-là, quand elle reste, une fois qu'on est à l'adolescence, elle peut causer des cas de harcèlement qui peuvent arriver aussi en cascade. Et malheureusement, on en revient à la question de la vie privée de l'enfant qui doit avoir le contrôle aussi sur son image.
Bruno Studer, c'est vrai que ce phénomène dont vous parliez tout à l'heure, des vlogs familiaux, des influenceurs famille qui postent au quotidien leur vie, celle de leurs enfants, ça banalise le fait de poster les photos de ses enfants, c'est-à-dire qu'on les voit faire et on se dit pourquoi moi je ne le ferais pas.
Oui, ça le banalise et puis ça donne envie parfois simplement à d'autres de connaître le même succès. Et en tout cas, ça ne fait pas passer le bon message. Et dans les travaux que je souhaitais poursuivre après avoir fait ces trois premiers textes, il y avait par exemple la question de des enfants qui apparaissent de plus en plus dans des émissions de live shopping, qui sont en fait du téléachat. Et c'est typique de ce à quoi on est confronté avec l'émergence d'Internet. Il y a des choses qui aujourd'hui existent encore sur Internet qui étaient interdites dans la télévision traditionnelle. Auparavant, vous n'aviez pas le droit de faire figurer un enfant dans une émission de téléachat qui passait à la télévision. Pourquoi ? Parce que ça a une influence énorme, la présence d'un enfant. Ça va multiplier l'affect que les gens vont avoir pour la vidéo, ça va rendre la vidéo beaucoup, beaucoup plus intéressante. C'est tout simplement ce qu'on appelle le Kinden Schema en sociologie, c'est-à-dire que si vous voulez avoir un contenu qui est viral, qui plaît et qui va derrière générer de l'audience et du trafic, eh bien vous mettez un enfant dedans. Parce qu'on est tous émus, parce qu'on est tous émerveillés par ce que font nos enfants. Et malheureusement, parfois, on a aussi des gens qui, effectivement, on le disait à l'instant, vont humilier des enfants, vont leur faire des mauvaises blagues. Et là aussi, malheureusement, ça marche mieux avec un enfant. Donc il faut continuer à faire passer le message, et le politique a son rôle à jouer, les associations, et on avait travaillé avec Camélion sur la question du droit à l'image, ont un rôle à jouer, les médias, les artistes ont un rôle à jouer. Moi je salue les ouvrages de Delphine de Vigan, son roman, les séries qui ont été faites pour faire prendre conscience de tout cela, parce que derrière, à la fin, personne ne nous a appris, nous, enfin je me mets dedans parce que moi j'ai des enfants maintenant, des adolescents, mais personne ne nous a appris à vivre avec Internet. C'est une nouvelle norme sociale que l'on doit s'approprier, il faut bien qu'elles arrivent de quelque part. Vous savez, on a tous dit à nos enfants de ne pas monter dans la voiture d'un inconnu devant l'école, parce que nos parents nous l'avaient dit également, tout simplement. Mes parents ne m'ont jamais dit qu'il ne fallait pas partager une image sur un réseau social. Il y a beaucoup de parents qui sont simplement démunis par rapport à la question de comment est-ce qu'on gère les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on gère les images. Et c'était pour cela aussi que j'avais souhaité changer le code civil à l'époque, en rappelant maintenant noir sur blanc que le rôle de parent au 21e siècle, c'est aussi de protéger la vie privée de l'enfant.
Allez, je lis un petit message de Anne qui nous arrive sur WhatsApp. Bonsoir, j'y vois surtout une dérive de plus du narcissisme engendré par les réseaux de la part de parents qui se servent de leur enfant comme faire-valoir, nauséabond, irresponsable et dangereux. On n'est pas là pour juger les parents, Eglantine Camille, peut-être pour les aider aussi à y voir plus clair. Moi, je voudrais un peu du pratico-pratique. On a un compte WhatsApp, on l'a passé en privé. Est-ce que ça, c'est davantage sécurisant et sécurisé?
Alors oui, c'est davantage sécurisant, mais comme je le disais, les risques existent toujours. Parmi les bons conseils qu'on peut appliquer, j'ai trouvé que le premier témoignage qu'on a reçu de Céline, je crois, justement, appliquait beaucoup de conseils que nous, on donne aux parents. Donc la première question à se poser, déjà avant de publier une photo, c'est pourquoi j'ai envie de poster cette photo ? Qu'est-ce qui se passe derrière ? Est-ce que cette photo peut être préjudiciable à mon enfant ? Si mon enfant est en âge ou a un degré de maturité suffisant, comme l'indique la loi, est-ce que je ne peux pas lui demander son consentement ? De la prendre et de la publier. Mais aussi, bah, y a plein de petites techniques qui existent. On a beaucoup parlé des émojis sur la tête des enfants.
On en voit beaucoup, des parents qui postent leur bébé ou leur petit enfant avec un émoji sur le visage.
Alors, c'est déjà un premier garde-fou. Malheureusement, comme on le disait, les nouvelles technologies, ça se développe plus vite que tout. Et aujourd'hui, il est possible de les enlever, ces émojis. Donc, ce qu'on conseillerait plus, c'est de faire en sorte que l'enfant ne soit pas reconnaissable en fait, sur la photo. De dos, de profil, le visage flouté. Et la dernière chose, évidemment, c'est d'échanger avec son enfant, parce que c'est aussi pouvoir s'assurer à l'avenir que son enfant ait de bonnes pratiques numériques et puisse se protéger et surtout nous parler si quelque chose arrive en ligne.
Oui, surtout que je regardais l'âge moyen de la création du premier compte sur les réseaux sociaux, 8 ans et demi, et 67% des enfants entre 6 et 10 ans qui ont un compte actif. Réfléchir à nos comportements, Églantine Camille, c'est aussi éduquer nos enfants finalement.
C'est ça. Combien d'enfants voient en fait leurs parents être aussi sur leur téléphone à table ? Alors tout le monde le fait, je le fais aussi. Mais c'est aussi en donnant le bon exemple qu'on peut agir. Je me souviens d'un témoignage qu'on avait eu d'un petit garçon de 7 ans sur le terrain qui nous disait qu'il avait par exemple un compte Snapchat depuis ses 3 ans parce que sa tata lui avait créé. C'est aussi contre ça qu'il faut lutter et il y a plein de parents qui appliquent ces conseils et je pense que c'est aussi de notre responsabilité collective de sensibiliser les autres parents qui ne le font pas encore en se disant, bon, il y a ces risques-là, et si on faisait autrement ?
Vous qui faites de la sensibilisation, est-ce que ça crée parfois des conflits dans les familles, entre générations, des grands-parents qui veulent poster sur Facebook alors que les parents disent non ?
Évidemment, bah, entre les deux parents, entre les grands-parents et les parents, entre les enfants eux-mêmes. Donc c'est pour ça que la loi donc, y a de Bruno Studer qui a inscrit cette prérogative parentale dans le Code civil, elle est super importante pour nous, parce qu'elle rappelle un cadre législatif qui fait que non, en fait, ce qui compte là-dedans, c'est le droit à la vie privée de notre enfant. Et que la question ne doit pas être sur l'envie des parents ou l'envie des grands-parents, qu'on comprend tout à fait, mais sur la protection de l'intérêt supérieur de cet enfant.
Bruno Studer, le cadre législatif, justement, je voudrais qu'on soit assez précis. Ça veut dire quoi aujourd'hui ? Que théoriquement, l'enfant doit donner son consentement à la publication des photos ?
Alors, on ne peut pas parler comme cela, parce que le parent reste...
En charge.
En charge. Et c'est d'ailleurs un parent, sa première des... fonction. Son premier rôle, c'est de protéger son enfant. Et dans la protection de son enfant, il y a la protection de sa vie privée. Et donc, on ne peut pas aller sur des questions aussi lourdes de conséquences que sur le consentement. Par contre, l'inscrire dans le Code civil, ça permet d'abord, un, de sensibiliser. Ça permettra aussi peut-être à des enfants, à un moment donné, de dire à leurs parents qu'ils ne le veulent pas. Et si leurs parents ne veulent pas les entendre, eh bien, on a prévu l'intervention du juge des affaires familiales. On espère évidemment que ça ne va pas arriver jusque-là, mais on peut à peu près deviner que ça va arriver jusque-là dans des cas très extrêmes. Voilà. Il y a différentes choses, en fait, parce qu'il y a des cas qui sont des cas vraiment très professionnels, où il y a des enfants qui travaillent pour leurs parents. Et dans ces cas-là, c'est la loi sur les enfants influenceurs qui s'applique. Mais on avait... même renforcer dans cette loi la capacité d'un enfant à faire supprimer des vidéos qui appartenaient à leurs parents, mais dans lesquelles ils apparaissaient. C'est pour ça qu'on est en train vraiment de développer ce rôle très proactif de l'enfant, qui n'est pas simplement un objet de droit, c'est pas un objet sur lequel les parents ont des droits, mais c'est un véritable sujet de droit. Et la France, sur ce sujet-là, je pense, a progressé et a fait progresser d'autres pays, puisque nos législations ont inspiré d'autres pays.
Et pour continuer, nous sommes en ligne avec Lauriane. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous.
Oui, bonsoir. Alors, en fait, je voulais juste réagir. Moi, je suis sociologue. J'ai fait une thèse notamment sur la mise en scène de la vie privée des familles. Et je voulais juste rajouter quelque chose par rapport aux groupes, en fait, qui sont ceux qui vont le plus mettre en scène les enfants, qui sont surtout les femmes et les femmes de milieu modeste, qui, en fait, par cette mise en scène, prouvent qu'elles respectent une norme qui est attendue d'elle, de bonne mère, qui va bien prendre soin de ses enfants. Et donc, c'est vrai que c'est très important, et je suis tout à fait d'accord, de faire attention à ce que ça fait aux enfants. Mais il ne faut pas oublier aussi que ça a un rôle direct pour les familles, et notamment que celles-ci vont ensuite essayer de protéger leurs enfants différemment, notamment en passant par WhatsApp, et elles prennent conscience progressivement de ce problème-là. Mais c'est comme tout, ça s'apprend, et les réseaux sociaux sont arrivés finalement assez récemment dans ces pratiques-là. Essayer de pas trop stigmatiser ces pratiques parce qu'elles ont un rôle direct social pour ces mères.
J'ai une question de Joseph sur la messagerie WhatsApp qui revient peut-être un peu à ce que vous disiez. Lauriane, il demande si le phénomène d'exposition des enfants sur les réseaux sociaux est lié à une classe sociale. Églantine Camille, est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Lauriane disait peut-être davantage les femmes, peut-être davantage les milieux modestes. Moi, je vois aussi plein d'autres parents issus d'autres classes sociales qui postent.
Tout à fait, c'est une pratique qui est quand même assez généralisée, même si effectivement il y a des tendances qui peuvent être analysées spécifiquement. On voit que c'est quelque chose, tout en même temps, on voit une montée de ce phénomène chez les jeunes parents et tout en même temps une prise de conscience des jeunes parents. Donc on est dans une époque qui est aussi assez clivante où en fait on prend en ce moment conscience de plein de choses sur les intelligences artificielles, sur les réseaux sociaux, les nouvelles technologies. Mais je pense que c'est quand même assez réparti chez beaucoup de personnes.
Une question d'Anouk, est-ce déjà arrivé que des enfants devenus adultes se retournent contre leurs parents pour demander des dommages et intérêts. Exemple d'influenceuses qui montrent leurs enfants la piscine. Est-ce qu'il y a des cas en France? J'avais cru voir qu'il y avait eu un cas en Italie d'un jeune homme qui avait porté plainte contre sa mère, Églantine Camille.
Alors, à ma connaissance, pour l'instant, il n'y a pas de cas en France. Donc, comme le disait Bruno Studer, maintenant, il y a des recours qui existent expressément dans la loi, mais pas encore de cas en France. J'imagine qu'on verra dans plusieurs années, même si je ne nous souhaite pas d'arriver jusque-là en ce qui concerne la vie privée des enfants.
Bruno Studer, votre loi, elle prévoit un mécanisme de sanction en cas d'atteinte grave, c'est ça ?
Oui, dans les cas les plus graves, qui peuvent malheureusement exister, on a donné le pouvoir au juge aux affaires familiales, qui est le juge qui va essayer de trouver des solutions aux problèmes de la famille. Hein. On n'est pas sur du pénal, on n'a pas utilisé un arsenal pénal où on aurait dit c'est tant et tant d'argent, c'est des peines de prison, etc. Non, on est sur le code civil. Et le juge, dans les cas les plus graves, il peut dire à certains parents, écoutez, pendant une période, on va vous retirer le droit à l'image de votre enfant et puis le confier à quelqu'un d'autre. Ça reste une mesure qui est très extrême, qui n'a pas encore été mise en œuvre aujourd'hui. Mais par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que moi, j'ai rencontré de nombreux avocats qui me disent que depuis le vote de la loi, ils s'en servent pour justement essayer de dénouer les problèmes, pour essayer de prévenir les problèmes. On voit aussi que ce texte, il est de plus en plus proposé dans les concours pour devenir avocat. Et donc c'est un sujet dont on sent bien qu'en fait il ne va faire qu'augmenter parce que ce qui a été fait ces dernières années risque de générer une prise de conscience du côté de ceux qui sont les premiers concernés, à savoir les enfants, d'ici quelques années. Donc il n'y a pas de solution miracle. La loi, de toute façon, vous savez, elle n'est pas miraculeuse. C'est pas parce que c'est interdit, là pour le coup, pénalement, de faire un excès de vitesse sur autoroute que tout le monde respecte. Par contre, c'est important, je crois, de le graver dans le marbre de la loi. Le rôle des parents, c'est de respecter la vie privée de leur enfant. Et à l'ère d'Internet, le droit à l'oubli n'existe plus. Ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment en prendre conscience.
Qu'en est-il un peu ailleurs dans le monde pour qu'on ait un peu un panorama? Est-ce que nous sommes plutôt précurseurs en France avec ce texte? Est-ce que nous sommes en retard?
Oui, on a été précurseur sur les enfants influenceurs, parce que la France est le premier pays à avoir vraiment légiféré sur cette question. On a été précurseur sur le contrôle parental, qui est un des sujets un peu sous-jacents à ce dont on parle, parce que ça doit permettre aux parents justement d'accompagner l'enfant dans la découverte du numérique. On a été précurseur sur le droit à l'image. Il y a des pays qui emboîtent le pas. Mais on peut vraiment dire que sur ce sujet-là, la France, je crois très, très, très humblement, a plutôt montré l'exemple.
Nous sommes en ligne avec Philippe. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, excusez-moi. Oui, voilà, je vais essayer d'être bref. Je vais être grand-père, c'est un vrai bonheur, là. Vraisemblablement en octobre. Et je me posais la question, à savoir... vu que j'habite quand même assez loin de chez mon fils et ma belle-fille, savoir si il m'envoie des photos, par exemple, par Messenger sur Facebook, ou alors par mail, ou quoi que ce soit, si ces photos-là risquent d'être réutilisées. Voilà.
Églantine Camille, une réponse pour Philippe. Quel est le moyen peut-être le plus sûr d'envoyer des photos pour qu'il puisse voir les photos de son petit-fils ou de sa petite-fille?
Alors jusque-là, évidemment, nous, notre but, c'est pas que tout le monde ait peur de recevoir des photos. C'est très sécurisé de les envoyer comme ça si vous êtes la seule personne qui les reçoit. Évidemment, il y a toujours un risque que des messageries soient hackées, que des données soient récupérées, mais ces risques, ils existent partout. Mmh. Donc dans ce cadre-là, par mail, très bien, Messenger, très bien, pour que vous puissiez voir vos petits-enfants.
Bruno Studer, c'est quoi les chantiers à venir? Vous nous avez parlé du télé-shopping, c'est comme ça que vous appelez cette nouvelle mode où les enfants déballent des produits, en gros commerciaux, qu'on leur envoie. C'est quoi les autres chantiers?
Alors, c'est d'abord, continuer à sensibiliser la population, parce que je pense que sur un sujet comme cela, il n'y a que la prise de conscience. Je parlais tout à l'heure de normes sociales, et parfois la loi, elle est là aussi pour permettre à des normes de voir le jour. Ensuite, il faut qu'elles soient relayées. C'est pour ça que c'était intéressant que Clara Chapaz publie la tribune dont vous parliez tout à l'heure. C'est pour ça que le rôle des associations, il est très important. C'est pour ça que l'éducation nationale a un rôle à jouer, parce qu'elle transmet aussi ces informations aux enfants. Et vous savez, moi, j'ai été... à propos de cette loi, peut-être jamais plus heureux qu'une fois, on discutait comme tout le monde, comme ce qu'on est en train de faire ici, avec des amis, qui avaient une fille qui était gymnaste. Mmh. Et elle s'est rendue compte un jour que, ayant donné l'autorisation à la fédération de prendre des photos, elle se retrouvait en tutu de gymnastique sur Internet. Eh bien, c'est grâce à une séquence d'éducation civique à l'école, ouais, qu'elle a pris conscience de cela et qu'elle a fait effacer toutes les photos d'elle, peut-être... Évidemment que des personnes ont pu faire des captures d'écran. Mais sinon, aujourd'hui, vous tapez son nom et son prénom et vous ne tombez plus sur des photos d'elle en tutu de gymnastique. Et j'ai trouvé ça formidable parce qu'il faut aussi rester positif, y compris, on est en train de parler de beaucoup de choses qui font très peur, mais Internet, les réseaux sociaux, ça, aussi, ça permet aussi parfois de prendre confiance en soi, ça permet de trouver des solutions à ses problèmes. Et donc, simplement, nous, on a essayé de mettre en exergue un problème qui était qu'il faut faire attention à la vie privée des enfants. Et puis derrière, c'est après le législateur qui est aujourd'hui à l'Assemblée nationale de trouver les voies et les moyens pour toujours mieux protéger les enfants sur des sites qui, parfois, vous savez, sont tout sauf de droit français. Mmh. Alors, quand c'est de droit européen, ça va beaucoup mieux. Quand c'est de droit américain ou chinois, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc peut-être faire aussi attention à ça, peut-être aussi faire attention à ça lorsqu'on utilise des outils qui nous permettent de communiquer, ce qui est quand même une nécessité absolue pour nous.
Églantine Camille, je reprends un mot que nous a dit notre première auditrice tout à l'heure. Céline, elle parlait de la construction de son enfant. Je voudrais peut-être à un instant revenir là-dessus, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses très graves, c'est-à-dire le cas où la photo part sur le darknet et tombe dans de très mauvaises mains. Mais peut-être plus prosaïquement, ça fait quoi d'être enfant, d'être posté tout le temps, d'être vu, qu'est-ce que ça peut faire à sa construction psychique ?
Eh bien, malheureusement, ça peut faire qu'un enfant n'a pas le contrôle sur qui il est. Alors, toutes les données qui sont sur nous sur Internet, on appelle ça l'identité numérique. Donc en fait, on a une identité qui est construite, qui est imposée à l'enfant depuis sa naissance, sur lequel il n'a aucun contrôle. Ça peut aussi, ça peut avoir des conséquences psychiques. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure du fait de quand il le peut, quand il est en âge, ou tout simplement même intégrer tout ça à la discussion quand on en parle, c'est de dire à l'enfant, est-ce que tu as envie que je te prenne en photo ? Est-ce que tu as envie qu'on l'envoie à telle personne ? Parce que ça, en fait, c'est des premières bases pour éduquer plus tard nos enfants au consentement et à des bonnes pratiques et à des mécanismes d'autoprotection. Donc tout à l'inverse, c'est en posant ces questions qu'on peut leur garantir de se construire eux-mêmes.
Il y a un sujet qui est revenu beaucoup dans l'actualité, parce que le gouvernement a relancé l'idée d'interdire les réseaux sociaux avant 15 ans. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée, Églantine Camille ?
Alors, c'est une idée à nuancer. Chez Caméléon, on essaye à tout prix d'avoir une approche qu'on appelle globale. Donc, c'est une approche qui, à la fois, vise à aider les enfants, à accompagner les parents et à légiférer tout en responsabilisant toutes les parties prenantes. Donc, interdire les réseaux sociaux, ça ne marchera que si, d'abord, on s'assure qu'il y ait des vrais systèmes de vérification de l'âge, parce qu'aujourd'hui, il suffit de regarder une vidéo YouTube pour savoir utiliser un VPN et changer notre adresse IP. Ça nécessite aussi une véritable politique d'éducation au numérique, parce qu'en fait, sinon, c'est juste une punition pour un enfant de se dire « j'ai pas le droit ». Il faut expliquer pourquoi c'est risqué. C'est aussi accompagner les parents. On a beaucoup de parents qui sont démunis face à ces pratiques. Et enfin, responsabiliser les acteurs du numérique, parce qu'on en a un peu parlé, mais en fait se poser la question de pourquoi aujourd'hui on peut développer des nouvelles technologies qui peuvent mettre en danger des enfants, et pourquoi il n'y a aucun garde-fou imposé aux grandes plateformes et aux grands acteurs du numérique.
Oui, Bruno Studer, les plateformes aussi sont responsables.
Les plateformes sont responsables, mais après, le politique a une responsabilité aussi de mener ce genre de manier ce genre de promesses avec grande prudence, parce qu'aujourd'hui, à droit français et européen constant, vous ne pouvez pas interdire les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on n'a même pas pris le temps de définir ce que c'est qu'un réseau social, parce qu'un forum de consoles de jeux vidéo sur lequel vous échangez des tactiques pour gagner votre jeu vidéo, c'est un réseau social sur lequel vous pouvez aussi échanger des informations. Les réseaux sociaux, c'est aussi un outil formidable pour de sociabilisation. On peut prendre confiance, je disais tout à l'heure, en découvrant des gens qui parfois sont aussi comme soi. Donc moi, je pense qu'il faut y aller très prudemment sur ce sujet-là. On est en train de parler aussi de la liberté d'expression et de communication. C'est une matière en droit qui est quand même très 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 importante. Elle est fondamentale même dans notre démocratie. Derrière, il y a des obligations qui sont à faire peser sur les plateformes. Évidemment, il y a un des sujets sur lesquels j'aurais souhaité pouvoir avancer à l'époque, c'était celui de la modération. Vous voyez, c'est un sujet dont on parle très très peu, peut-être d'ailleurs vous pourrez en parler un jour. C'est les gens qui, derrière, modèrent les contenus.
Ouais.
Parce qu'aujourd'hui, on dit les plateformes doivent faire ceci, cela, mais on ne va pas regarder les gens qui modèrent des contenus pédopornographiques. Alors on le sait un peu, nos policiers parfois font des enquêtes qui sont d'ailleurs très très éprouvantes psychologiquement pour eux, parce qu'ils voient des choses qui sont le pire de l'humanité. Mais vous avez aussi des milliers et des milliers de personnes qui sont employées souvent dans des pays qui sont tous sauf français, qui sont confrontées à ces images-là. Donc il y a, je pense que ce qu'a dit, ce qui vient d'être dit sur une approche globale, c'est absolument cela dont il faut parler. Et cette approche globale, eh bien, la France ne peut pas le faire toute seule. Et c'est pour ça que la coopération européenne et la coopération au-delà de l'Union européenne est très, très, très importante. Et je crois que là, pour le coup, c'est un chantier que la présidente de la République a pris à bras le corps.
Allez, je termine juste avec un message de Sylvie. Le droit à l'image s'apprend à commencer à se reconnaître ce droit pour soi-même. J'ai appris à mon enfant à gérer ce droit à l'image en lui expliquant que j'avais moi aussi ce droit et que, par exemple, je ne souhaitais pas figurer sur les réseaux. Ça conclut bien cette émission. Il faut parler et discuter avec ses enfants. Merci beaucoup à nos invités, Eglantine Camille de l'association Caméléon, Bruno Studer, ancien député de La République En Marche. Merci à toute l'équipe du Téléphone Sonne cette semaine, Laura Dumez, Amaury Baucher, Elio Lamour, Simon Bardi, au standard Louise et Noémie, et à la technique Corentin Rouchy, Sofiane Actib, Thomas Allard, Paola Collin, Arnaud Caillé et Florian Dorimini. Tout de suite, la question des petits bateaux.
Bonjour, je m'appelle Cécile et je voudrais savoir pourquoi les arbres restent debout, j'ai 4 ans. Merci, au revoir.